Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition. Enlèvement d'une cinquantaine de femmes à Arbinda. La France et l'ONU condamnent et appellent à leur libération. Et puis lutte contre le terrorisme, les commandants des 6 légions de gendarmerie sont connus. Et parlant d'enlèvement de femmes à Arbinda, cela rappelle les nombreux autres enlèvements de personnes par les hommes armés à Pama. À Pama donc, où une vingtaine de jeunes avaient été enlevés le 13 janvier 2022. Ils ne sont toujours pas à retrouver. Nous en parlons avec Frédéric Onadia, ancien maire de Pama. Il est notre invité, interview à suivre en fin de journal. Les États-Unis ont annoncé hier lundi être profondément préoccupés par l'enlèvement de plus de 50 femmes par des hommes armés près d'Arbinda dans la région du Sahel les 12 et 13 janvier dernier. Plusieurs autres voix se sont élevées pour condamner ces enlèvements, notamment au niveau de la France et de l'ONU. Lamine Traoré.
Dans le communiqué du département d'État, les États-Unis exigent que les personnes enlevées doivent être rendues immédiatement et sans condition en toute sécurité à leurs proches. Les auteurs de l'enlèvement doivent être poursuivis et doivent être traités selon la rigueur de la loi, peut-on lire dans le communiqué. Nos pensées vont aux personnes enlevées ainsi qu'à leurs familles et autres proches, affirment les États-Unis. Toujours lundi, la France a condamné avec la plus grande fermeté l'enlèvement de ces femmes à Arbinda. La France appelle à leur libération immédiate, peut-on lire dans la déclaration. Le pays dit réaffirmer sa solidarité ainsi que son engagement aux côtés du Burkina Faso. Plus tôt lundi toujours, le gouverneur de la région du Sahel avait confirmé l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes entre les 12 et 13 janvier à Arbinda, dans la province du Soum, région du Sahel. Une cinquantaine de femmes ont été respectivement enlevées par des groupes armés terroristes à une quinzaine de kilomètres de Arbinda, village de Liki, et dans une autre localité située au côté ouest de Arbinda, dans la province du Soum, avait annoncé le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, le gouverneur du Sahel. Selon le communiqué du gouverneur, ces femmes ont été enlevées par des hommes armés alors qu'elles étaient à la recherche de fruits sauvages. Dès leur disparition signalée, des recherches ont été entreprises en vue de retrouver l'ensemble de ces victimes innocentes, saines et sauves, avait rassuré le gouverneur. Mais jusque-là, aucune trace des personnes enlevées.
Merci à Lamine Traoré. Ces enlèvements de femmes à Arbinda rappellent les nombreux autres enlèvements de personnes par les hommes armés non identifiés. Pama, dans la région de l'Est, se souvient d'ailleurs de la vingtaine de jeunes enlevés le 13 janvier 2022 et toujours pas retrouvés. Frédéric Onadia, ancien maire de Pama, est notre invité. Interview à suivre enfin en deux journaux. Et nous parlons de lutte contre l'insécurité. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a entrepris une réorganisation des forces de défense et de sécurité afin de multiplier les victoires sur le terrain. Le 14 novembre 2022, le chef de l'État, chef suprême des armées, a décidé de la création de 6 légions de gendarmerie. Les commandants de ces légions ont été nommés le 30 décembre dernier. Jeudi Traoré.
La gendarmerie nationale, auparavant organisée en 3 régions de gendarmerie, est dorénavant réorganisée en 6 légions de gendarmerie selon un document de l'état-major de la gendarmerie. L'appellation légion de gendarmerie n'est pas nouvelle. Elle était propre à la gendarmerie nationale avant l'avènement de la révolution d'août 84. La Légion de gendarmerie est un commandement de circonscription régionale subdivisé en gendarmerie départementale et en gendarmerie mobile, constituant les deux grands piliers de l'institution. L'unicité du commandement de la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile se fait au niveau de la Légion de gendarmerie qui a rang de région militaire. Le commandant de la Légion de gendarmerie a de ce fait rang de commandant de région militaire. À ce titre, il exerce son commandement dans les mêmes espaces territoriaux que le commandement de région militaire. La Légion de gendarmerie participe à la défense opérationnelle du territoire. Ainsi donc, la première Légion de gendarmerie basée à Kaya, avec pour compétence sur les régions administratives du centre-nord et du nord, est commandée par le lieutenant-colonel Koudbi Florian Théophile Tago. Le lieutenant-colonel Yagibou Issa est le commandant de la 2e Légion de gendarmerie basée à Bobo-Dioulasso avec compétence sur les régions administratives des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest. Le lieutenant-colonel Diabri Léonide Rakisungende est le commandant de la 3e Légion de gendarmerie basée à Ouagadougou avec compétence sur les régions administratives du centre du plateau central, du centre sud et du centre ouest. La 4e Légion de gendarmerie, basée à Dori, a pour commandant le chef d'escadron Sibsié Arnaud, avec pour compétence sur la région administrative du Sahel. Le chef d'escadron Nyangao Bapan est le commandant de la 5e Légion de gendarmerie basée à Dédougou avec compétence sur la région administrative de la boucle du Mouhoun. La 6e Légion de gendarmerie a pour commandant le lieutenant-colonel Taoko Kiswensida Wilfried, basé à Fadangourma, avec pour compétence sur les régions administratives de l'Est et du Centre-Est. Une légion spéciale est également mise en place avec pour chef le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara. Elle est constituée des différents corps et unités spéciales de la gendarmerie.
Et nous restons dans le domaine sécuritaire. Une dizaine d'engins à deux roues, des téléphones portables, des pièces détachées, des motos composent en outre le butin saisi par le commissariat de police de l'arrondissement de Aix-Bascuy de Ouagadougou, donc des mains de deux réseaux de présumés malfrats qui opéraient donc dans la ville de Ouagadougou et de Zignari. Ils ont été démantelés par la police nationale avec l'appui de la population. L'information a été publiée sur le site de la police nationale ce mardi. Le point avec Valérie Guéret.
S'agissant du premier réseau, ses membres spécialisés dans les vols dans les domiciles et devant les lieux de commerce profitaient de l'inattention des propriétaires qui ne se trouvaient pas à côté de leur moto pour s'en accaparer à l'aide de fausses clés. Les numéros de série de ces engins volés étaient falsifiés ou les cadres remplacés avant d'être écoulés entre 25 000 francs et 125 000 francs CFA en fonction de l'état de l'engin. Pour ce qui est du second réseau, ses membres s'étaient spécialisés dans les braquages et les vols à l'arraché sur les voies publiques. Ils sillonnaient dans la journée les artères de la ville et dès qu'une cible était identifiée, ils la filaient et profitaient d'un moment d'inattention pour arracher son sac à main et disparaître dans la circulation. Ils arrivaient également que la victime soit suivie jusqu'à un lieu jugé propice pour passer à l'acte. Ils l'y obligeaient à ralentir à l'aide d'une arme, ils la tenaient en respect et retiraient l'engin et tout autre objet de valeur trouvé en sa possession. Pour éviter d'être facilement identifié par les services de sécurité, les engins nouvellement volés étaient utilisés pour de nouvelles opérations et les anciens vendus entre 150 000 et 200 000 francs CFA selon la qualité. Selon la police nationale, plusieurs membres de ces deux réseaux ont été appréhendés et conduits devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes. Des arrestations rendues possibles grâce à la collaboration des populations.
Radio Méga, et nous nous penchons sur, on peut dire, la consommation des Burkinabés, à savoir donc la viande de porc, donc, concerne une certaine catégorie. Une viande qui est très prisée. Le nombre de porcs abattus par jour dans les grands centres urbains est astronomique. Par exemple, en 2009, pour ce qui est des abattages contrôlés, donc, on estimait à 1000 porcs qui sont abattus par semaine dans la seule ville de Ouagadougou et entièrement consommés sur place. Dans la ville de Sia, cette viande est particulièrement prisée par les populations également. La vente de cette viande est devenue un business florissant pour de nombreuses personnes qui s'investissent dans le secteur. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre ce reportage signé Jean-Paul Ouidraogo.
Au secteur 6 de Bobo-Dioulasso, Tomako exerce son activité de boucherie depuis 18 ans. Sa spécialité, la viande de porc au four.
Dans les campagnes, où avec des éleveurs, nous avons des fournisseurs. Donc quand on prend avec eux, on envoie ça à l'abattoir pour l'abattage, pour que le vétérinaire puisse contrôler. Après ça, maintenant, nous envoyons ça à notre lieu de travail et nous commençons à découper par morceaux, à dégraisser les parties gras et ensuite on lave, on marine et on met ça au four et on attend au moins minimum 5 heures du temps, c'est déjà prêt et on met les assaisonnements et on attend la clientèle.
Une clientèle qui ne se fait pas trop attendre Les amateurs de cette viande trouvent de bonnes raisons pour la consommer régulièrement. Laurent Sanou, consommateur.
J'ai l'habitude de prendre cette viande parce que c'est considéré comme la viande blanche. Et que bon, je me dis que ça n'a pas assez de séquelles. Bon, régulièrement, en tout cas, quand je veux prendre la viande, c'est le porc au four, je prends. Avec l'âge, souvent, on déconseille la viande rouge. On dit de préférer la viande blanche. Et je me dis, ça, c'est classé dans le groupe de la viande blanche. Voilà pourquoi je préfère ça.
Au bord de l'avenue Charles de Gaulle, Colo Sano propose aux clients une gamme variée de mets à base de porc. Il totalise 30 ans d'expérience.
C'est la viande de porc que je vends depuis 87. Aujourd'hui même, j'ai un porc de 54 kilos. Il y a les enfants, j'ai peu nourri. Ma maman même est là, mon papa même est là. Je me double avec ça, sans problème.
Installé au secteur 5, Innocent Somda fait partie de nombreuses personnes à Bobo Dioulasso qui ont fait de la vente de la viande de porc leur principale source de revenus. L'activité constitue une belle opportunité économique.
Par jour, on peut vendre 3 à 4 porcs par jour. Voilà. Souvent, on peut vendre jusqu'à 200 000 francs, 250 000 francs. Mais souvent, même, ça dépasse. Et puis, il y a les... par rapport aux cérémonies aussi, on peut mettre des porcs pour donner aux gens. Voilà. On les vend frais, on les vend en gros aussi. Voilà, au niveau de l'abattoir.
Dans la ville de Sia, la viande de porc fait partie des mets les plus consommés. Au four, grillé, sauté ou en soupe, chacun y va de son goût.
La revue de presse.
Si les autorités de la transition veulent que les Burkinabés contribuent à l'effort de guerre, il faut qu'elles montrent le bon exemple et cela passe par la transparence dans la gestion des ressources de l'État. C'est ce que pense l'Express du Faso. Et face aux accidents de la circulation enregistrés au Sénégal, le pays et l'Observateur s'interrogent à quand la fin de la série noire. Quel est donc ce mauvais djinn qui hante les routes sénégalaises en ce début d'année? La revue de presse de ce mardi vous est présentée par Brigitte Yoda.
La presse burkinabé commente l'instauration des nouvelles mesures fiscales en vue de soutenir l'effort de guerre. Payer ses taxes et contribuer à l'effort de guerre dans le contexte actuel du Burkina Faso est un devoir de citoyen, un engagement qui ne devrait souffrir d'aucune difficulté, lance l'Express du Faso pour qui, s'il se trouve aujourd'hui des Burkinabés qui rechignent à contribuer à l'effort de guerre, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas convaincus que les fonds qui seront collectés iront là où ils devraient aller. Tant que la redevabilité n'est pas inscrite dans les habitudes des Burkinabés ou érigée en règle, il sera toujours difficile de les mobiliser autour d'importantes questions comme celle de la défense de la patrie, insiste le journal Bobolais qui interpelle le président Ibrahim Traoré et son premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Et au sujet des légitimes attentes des populations face à la réalité du terrain, le quotidien invite les villages et autres communes à s'organiser en attendant le soutien de l'État. Disons-le tout net, malgré le travail remarquable des FDS et des VDP, ces derniers temps sur le terrain, il faut reconnaître qu'ils ne peuvent pas être partout et en même temps. Raison bien suffisante pour que chaque commune, chaque village trouve les voies et moyens pour s'organiser et mener la résistance si l'occasion se présente, conclut le quotidien. Nouvel accident mortel au Sénégal. Quel est donc ce mauvais djinn, entendu par Djinn Genie, qui hante les routes sénégalaises en ce début d'année, s'interroge l'observateur Palga. En effet, hier, lundi 16 janvier 2023, un car est entré en collision avec un camion sur l'axe Louga-Saint-Louis, faisant 19 morts et une vingtaine de blessés, relate notre confrère. Pas plus tard que le 8 janvier dernier, une quarantaine de personnes avaient aussi péri dans un autre accident, provoquant une véritable onde de choc, poursuit le pays qui se demande à quand la fin de la série noire. Et l'Obs de rappeler que ce véritable séisme avait conduit le gouvernement de Macky Sall à décréter un deuil national de 72 heures et surtout à prendre une batterie de 22 mesures. Une batterie de mesures dont la plupart sont contestées par les transporteurs qui prévoyaient du reste une grève illimitée à partir de ce mardi 17 janvier 2023, fait remarquer le journal des 1200 logements. En tout cas, pour l'observateur et le pays, les causes de ces sinistres à répétition sont bien connues. Le non-respect du code de la route, la prolifération des faux permis égrène le doyen des quotidiens. À cela s'ajoutent les surcharges, le mauvais état des routes, la corruption des agents chargés de faire respecter le code de la route, etc. complète le pays pour qui, les maux étant connus, il faut donc leur apporter des solutions durables. À ce propos, l'OPS suggère d'une part de l'État, de l'intransigeance face aux multiples transgressions des règles encadrant la circulation routière et d'autre part des usagers de la voie publique, une discipline collective au lieu de continuer à foncer tête baissée, bim, dans le mur.
L'invité du jour. L'invité du jour.
En janvier 2022, soit un an de cela, une vingtaine de jeunes ont été enlevés par des hommes armés à Pama dans la région de l'Est. Depuis lors, plus de nouvelles de ces derniers. Un souvenir qui aurait fait surface avec l'enlèvement de la cinquantaine de femmes à Arabinda dans le Sahel. Frédéric Onadia, ancien maire de Pama, nous en parle. Il commence ici par nous parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans la localité.
D'abord, je vous dis merci, Omega, d'avoir pensé vraiment à cette ville mitrée depuis près de 2 ans. À vous dire vrai, comme Dieu le fait bien, on n'a aucun réseau au niveau national dans la ville de Pama, mais grâce à une compagnie étrangère d'un pays voisin, qui couvre la ville de Pama. Donc, tous les jours que Dieu fait, on prend des informations à nos frères qui sont sur place là-bas. Au jour d'aujourd'hui, Pama est vraiment cerné. Ça, je ne cacherai pas. C'est le lieu pour moi quand même. Je dis merci aux autorités pour tout ce qu'ils font, mais reconnaissons quand même que Pama cerné.
Quand vous dites cerné, vous entendez quoi par là? Rien ne rentre, rien ne sort?
Exactement. Vous avez même trouvé, parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, aucune personne ne peut quitter un kilomètre de Pama.
Alors, mais pourquoi est-ce que personne ne peut rentrer ni sortir? Est-ce parce qu'il y aurait des mines sur les routes ou tout simplement parce que les terroristes sont sur les différents axes d'accès?
Mais en toute sincérité, ce que les VDP me disent, le problème, ce n'est plus la présence des groupes. C'est vrai, ils sont là, mais pas comme avant. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'état des voies. Parce que personne ne sait, tant que les techniciens ne passent pas, personne ne peut prendre la voie. Et surtout que ceux qui sont dans la zone là-bas, c'était des spécialistes à la matière. Même autour du village, il y a eu des armements qui sont tombés sur des mines. Donc ça fait qu'on a peur de prendre la voie uniquement pour ça, je crois bien.
Et quelle est la situation humanitaire donc au regard de ce que vous dites?
Et la situation humanitaire aussi, comme je le disais, c'est pas simple parce que à la fin de l'année, je pense que c'est le 29, j'étais obligé de, pour une première fois, de faire un RCS à l'endroit de nos autorités pour que la ville soit vraiment ravitaillée. Dieu merci, 3 jours après, ils ont fait un minimum, si je peux le dire, un minimum. En tout cas, ils ont fait 4 tours avec les locaux, il y a eu des vivres, et surtout des marchandises, des commerçants qui étaient bloqués aussi depuis 8 mois à Fada. Donc, la situation humanitaire, elle n'est pas simple. Parce que les gens, ils ont l'argent derrière eux, ils peuvent pas trouver quoi payer. Donc, ce qu'on les envoie naturellement, c'est du riz, de l'haricot, de l'huile, c'est ça, en dehors de ça.
Actuellement, donc, on peut dire qu'il y a toujours un peu de vivre.
Pour le moment, j'étais en contact avec un de mes frères hier. Donc, pour le moment, les vivres, ça va.
Alors aujourd'hui, le pays est choqué par l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes à Arabinda. Est-ce que ce sont des faits qui se produisent souvent à Pama, vu que vous parlez de blocus de la ville également?
Ah oui, parce que ça, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Avant le blocus total de Pama, ils ont pris au moins une vingtaine de nos jeunes. J'ai dit une vingtaine, là aussi, je ne peux pas exagérer. Sinon, on a un bon nombre de jeunes qui ont été kidnappés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle d'eux. Bien avant ça même, le chef de service de la mairie qui s'occupe de l'état civil, lui, depuis le 31 mai 2020, qu'ils ont été enlevés. Aucune nouvelle. Donc, sincèrement, chez nous, ça arrive aussi.
Et comment est-ce que vous vivez la situation étant hors de Pama, pour ne pas dire vous les ressortissants de la localité?
Justement, c'est ça le comble, parce que nous-mêmes, on n'est plus peinés. C'est souvent ce que les parents disent, nous, on n'est plus peinés qu'eux, parce que nous, on ne vit pas ça. Mais eux, ils vivent ça, et nous, de loin, on essaie de faire ce qu'on peut. Donc, c'est difficile pour quelqu'un, un ressortissant, qui est là et qui se rend compte quand même que sa ville natale est prise en otage. Ce n'est pas facile de vivre ça.
Alors, Solenzo était occupé par les terroristes. Aujourd'hui, Solenzo a été libéré par les forces de défense et sécurité. On peut dire que cela vous donne également de l'espoir.
Exactement, ça nous donne de l'espoir, tout à fait. Mais ce qui est aussi important qu'il faut noter, quand on arrive à faire ce travail, il faut le pérenniser aussi. Voilà, une chose est de reprendre la ville, l'autre chose aussi est de pérenniser pour que la sécurité soit maintenue.
Alors, de façon générale, comment est-ce que vous appréciez donc les initiatives des nouvelles autorités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme?
Bon, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je peux me permettre de dire qu'il y a l'espoir, si et seulement si ils se contentent réellement sur l'insécurité que nous vivons, s'ils se concentrent comme ils le font actuellement, s'ils ne lâchent pas, je pense que l'espoir est permis.
Frédéric Onadia, merci.
Merci, M. Zungramer.
C'était l'invité de la rédaction.
Alors, c'est notre invité, l'ancien maire de Pama, Frédéric Onadia. Adama Konaté, la technique, et Yadio Mandi pour la retransmission web assistée par Yasmine Ebi. Ici donc sur FM, ce journal. Et nous terminons avec ce proverbe guinéen. Le lion qui chasse ne rugit pas. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.